Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, vous écoutez Tout s'explique, je suis Anne-Laetitia Béraud et un message avant de commencer, abonnez-vous gratuitement à Tout s'explique sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée, ce sera peut-être Apple Podcast ou Spotify. Et aujourd'hui, on va parler de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, en France. 50 ans après l'adoption de la loi portée par Simone Veil, l'IVG est entrée par la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, dans la Constitution française. Cette loi, elle inscrit la liberté garantie des femmes à recourir à cette pratique. Notons que la France est le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa Constitution l'IVG. Mais aujourd'hui en France, où en est-on avec l'IVG ? L'on sait qu'une femme sur trois a recours à l'IVG au cours de sa vie, mais comment, dans quelle structure, par quels moyens ? L'Institut National d'Études Démographiques, l'INED, a travaillé cette question et publié une analyse dans l'article « L'évolution démographique récente de la France 2023 » paru dans la revue Population. Pour revenir sur ces chiffres, les expliquer, revenir aussi sur les raisons éventuelles des femmes ayant recours à l'avortement, notre invitée est Justine Chaput, doctorante en démographie à l'INED et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L'IVG étant pris en charge par la Sécurité sociale, la jeune chercheuse travaille notamment sur les données de remboursement de l'assurance maladie. Bonjour Justine Chaput, revenons à la base, qu'est-ce que l'IVG ?
L'interruption volontaire de grossesse, donc on appelle couramment du coup IVG, c'est un cadre légal qui autorise l'avortement depuis 1975, donc ce qu'on appelle la loi Veil. Et du coup, ce cadre-là, aujourd'hui, il permet d'avorter jusqu'à 14 semaines de grossesse, soit 16 semaines d'aménorrhée. Donc l'aménorrhée, c'est la période depuis le premier jour des dernières règles. Ça permet d'avorter jusqu'à ce stade-là.
L'INED a toujours un petit décalage sur les chiffres sur lesquels elle travaille. Les données disponibles portent sur 2022. Quels sont les chiffres globaux de l'IVG en France cette année-là ?
En 2022, on a 232 000 IVG qui ont été pratiqués. C'est à préciser aussi qu'en France, en fait, on a un deuxième cadre de l'avortement, qui est le cadre de l'IMG, donc l'interruption de grossesse pour motif médical, qu'on appelle aussi couramment l'interruption médicale de grossesse, et qui, lui, dans ce cadre-là, permet de faire un avortement à tout moment de la grossesse, mais sur autorisation de deux médecins, membres d'une équipe de plusieurs soignants.
232 000 IVG en France. Qui a le plus recours à l'IVG ?
C'est ce qu'on appelle les âges d'entrée dans la maternité et un petit peu au-delà. On a cette concentration à 20-34 ans et ce pic, si on peut dire, à 25-29 ans.
Quelle évolution constatez-vous en France, notamment en 2021 et 2022 ?
On a une augmentation qui est de 7,8%, donc comme ça peut paraître assez impressionnant. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 2021, c'est l'année qui suit la première année de la crise sanitaire, donc du Covid-19, où en fait on a eu une forte baisse du nombre d'IVG, et y compris plus généralement du nombre de conceptions, puisqu'on voit aussi qu'il y a une baisse des naissances cette année-là. Cette baisse qu'on a vue en 2020, c'est un petit peu atténué du coup en 2021, et en 2022, du coup, on a une augmentation. Mais en fait, ce qui est important de voir, c'est que si on compare 2022 à 2019, donc l'année juste avant le Covid, on n'est qu'à 3,7% d'augmentation. L'augmentation du nombre d'IVG, en fait, c'est pas quelque chose de grave, juste c'est un état de fait. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi est-ce qu'il y a effectivement cette augmentation.
Quel facteur pourrait expliquer cette augmentation de l'IVG en France ?
En fait, on est obligé de regarder les conceptions d'une manière générale parce que donc s'il y a des IVG, c'est qu'il y a des conceptions, mais les conceptions, elles peuvent aussi aboutir à des naissances. Et en fait, ce qu'on voit en 2022, c'est qu'on a une baisse des naissances et une augmentation des IVG, ce qui est quelque chose d'un peu surprenant parce que sur le long terme, on voit plutôt que ces deux stocks en fait vont varier de la même manière, c'est que s'il y a augmentation des IVG, il y a augmentation des naissances et inversement. Et donc là, c'est pas exactement ça qu'on voit en 2022, c'est plutôt deux tendances inverses. Et donc, si je dis que c'est important de regarder l'évolution des IVG et des naissances, c'est parce qu'en fait, c'est à prendre dans un contexte plus global de quel est le contexte socio-économique. Et en fait, comme je le disais, donc on a eu la crise du Covid-19 là en 2020-2021 et qui, puis là aujourd'hui, du coup, on a les suites de ce truc-là avec un contexte socio-économique qui est quand même assez compliqué, avec de l'inflation, avec géopolitique, pareil, assez complexe et qui fait qu'on est dans un contexte assez, on peut penser peut-être anxiogène et peu propice à l'accueil d'une nouvelle naissance là maintenant. Et donc, dans les hypothèses que nous, on formule avec les collègues de l'INET qui travaillent sur l'avortement, c'est le fait que cette augmentation des IVG, dans ce contexte de baisse des naissances et d'une économie compliquée, eh ben, du coup, ce serait que l'IVG a été utilisé comme un moyen de planification familiale, de dire, là, cette année-là, ça semble pas tout à fait propice à l'accueil d'un nouvel enfant. Et donc, ce qu'on verra dans les prochaines années, c'est est-ce qu'il y a un report des naissances qui, je mets des guillemets, mais qui auraient dû arriver en 2022 et qui, du coup, auront lieu plus tard dans un contexte qui sera plus favorable à ça, ou est-ce qu'effectivement il y aura juste une augmentation des IVG et du coup un changement des comportements sur le long terme. Mais ça, pour le moment, on ne peut pas le prédire.
Rappelons qu'il y a plusieurs types d'IVG, par médicament ou par une petite chirurgie. L'IVG par médicament est majoritairement pratiqué en ville, que ce soit en cabinet de sage-femme, de médecin, dans un centre de planification ou d'éducation familiale, ou encore dans un centre de santé. Quant aux hôpitaux et cliniques, ils peuvent pratiquer les IVG par médicament, mais aussi les IVG chirurgicales. Vers quelles structures se tournent majoritairement les plus jeunes femmes ayant recours à l'IVG ?
Comme l'ensemble des femmes, elles se tournent principalement vers les établissements de santé et en particulier les établissements publics. En gros, c'est l'hôpital public, quoi.
Pour quelle raison principale, selon vous, l'hôpital public est privilégié par les plus jeunes ayant recours à l'IVG ?
Ce qu'on peut formuler comme hypothèse, c'est que ce serait parce que l'hôpital public est considéré comme un lieu qui est assez facilement identifiable pour pouvoir du coup recourir à un soin d'une manière générale et donc à l'avortement. Et que il permet aussi plus d'anonymat que le médecin de famille ou que du coup un centre qui serait plus proche du lieu de vie. D'où l'importance de dire que c'est l'hôpital public avec tout l'anonymat qu'il peut comporter, parce que c'est une structure plus large où il y a plus de personnes qui peuvent passer, etc., etc. Donc ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que ça se croise aussi avec la méthode, justement, et la durée de grossesse au moment de l'avortement. La durée de grossesse au moment de l'avortement, elle est un peu plus élevée chez les jeunes que chez les femmes plus âgées. Ça va en lien avec le fait qu'il y a plus d'IVG chirurgicales qui sont faites chez les plus jeunes que chez les plus âgées. Et donc, du coup, peut-être qu'en fait, il y a une un peu plus longue période qui se passe avant que les femmes plus jeunes, éventuellement celles qu'elles sont enceintes, et ont la possibilité d'aller vers un endroit où elles pourront avorter. Parce qu'il y a peut-être une plus grande difficulté à avoir une autonomie pour se déplacer par rapport aux parents, pareil, une moins grande autonomie financière, un tabou qui peut être un peu plus important, une stigmatisation qui peut être un peu plus forte aussi, qui peut peser chez les plus jeunes, autour de la grossesse et autour de l'avortement.
Les établissements publics connaissent depuis des années des difficultés de financement, d'organisation. Quel défi, selon vous, pour que ces établissements restent de référence pour les jeunes ayant recours à l'IVG ?
Depuis les dernières décennies, on observe une fermeture de nombreux centres IVG, et y compris de nombreuses maternités. Et si je le dis, c'est parce que souvent les centres IVG sont accolés aux maternités. Et que pareil, là, on a des difficultés à recenser exactement le nombre de centres IVG qui ont fermé, parce qu'on a certains qui ont ouvert également, etc. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que le temps moyen pour accéder à une maternité, il a augmenté dans l'ensemble. Et donc, du coup, ça suppose aussi que ce temps moyen, il a augmenté pour accéder à un centre IVG, qui, comme je disais, concerne beaucoup les jeunes femmes. La baisse des moyens alloués à l'hôpital, la fermeture de lits, le fait de fermer y compris des hôpitaux qui sont plus petits, en particulier dans les zones plus rurales, pour recentraliser tout ça dans des hôpitaux qui sont plus centraux, plus situés dans des zones plus urbaines, etc., bah ça fait qu'en fait, des femmes qui sont, notamment des femmes jeunes, mais des femmes précaires d'une manière générale, vont avoir de plus en plus de difficultés à accéder à ces endroits-là, parce que justement, il y a cette distance qui est de plus en plus grande. Et qu'en fait, il faut se dire que plus il y a un endroit ou pouvoir avorter, plus il y a de possibilités de tomber sur des soignants qui sont à l'écoute, qui sont disponibles, qui vont pouvoir prendre en charge rapidement, pris de l'habitude de pratiquer ces gestes-là, et de comprendre en fait que l'avortement, ça fait partie de l'histoire de vie des femmes, parce que ça, c'est un acte qui est complètement commun, et ça aussi, je me permets de le mentionner juste là, mais c'est qu'en fait, il faut avoir en tête qu'il y a une femme sur trois qui a un avortement au cours de sa vie, donc c'est un acte commun, donc ça rentre dans les besoins que les femmes peuvent avoir au cours de leur vie, que ce soit d'un point de vue gynécologique, de projet, de famille, etc. D'où la nécessité de diversifier ces endroits où pouvoir avorter, et notamment du coup l'hôpital public.
Avant de conclure, retrouvez notre précédent épisode sur l'IVG avec pas une, mais des histoires personnelles de femmes, avec Léa Castor, autrice, graphiste et illustratrice, qui a publié « Cher Blop Blop, lettre à mon embryon ». Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Tout s'explique, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. Pour nous écrire, une adresse audio@20minutes.fr. À très vite.